On va aborder donc la suite des méditations « Je suis » de l'Évangile de Jean. Et on va aborder donc les troisièmes et les quatrièmes « Je suis » de l'Évangile de Jean. Mais j'aimerais insister aujourd'hui un peu plus sur l'importance de cet enseignement sur les « Je suis » pour chacun de nous en termes concrets dans la vie de tous les jours. Je vais m'expliquer. Après avoir étudié ces textes en profondeur, moi je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de nous avoir donné la puissance de cette parole. C'est vraiment des textes qui sont à part, qui sont extraordinaires. Et je remercie vraiment Dieu de m'avoir permis de les méditer. Je voudrais partager avec vous ce matin le fruit de ces méditations et de ce que le Seigneur m'a donné la grâce de comprendre. Et c'est des textes qui sont à la fois simples à comprendre et difficiles pour aller en profondeur, pour comprendre vraiment ce que Jésus veut dire et qu'est-ce que Jésus veut dire pour notre vie de tous les jours. Parce que c'est pas tout de sortir de la salle et de dire c'est vrai, c'est bien, c'est le bon berger, la porte et tout ça, et qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et l'enjeu pour chacun de nous, c'est de se dire qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? C'est les deux termes grecs de la parole. D'un côté, le logos, c'est les discours, c'est la parole qu'on entend. Et puis, il y a le rhéma, qui veut dire parole aussi, mais c'est la parole mise en action. C'est ce que je vais prendre de la parole, que je vais ramener chez moi, et que demain, je vais mettre en action, et qui va me transformer. Et l'enjeu, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça va changer chez moi? Parce que si j'écoute la parole pendant 20 ans dans une église, et que ça ne change rien chez moi, eh bien, je n'ai pas progressé dans la connaissance du Seigneur Jésus. Voyez? Donc, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ta parole, devant les merveilles de ta loi, comme le dit le psalmiste. Et nous avons vraiment besoin de ta grâce pour comprendre cette loi. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Aide-nous, Seigneur, à saisir ce que tu veux nous dire. Seigneur, ta parole est la vérité, nous le savons. Et vraiment, nous supplions, Seigneur. Tout à l'heure, le frère a dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Et je veux croire que c'est ta volonté que nous comprenions ta parole. Alors Seigneur, aide-nous à la comprendre. Amen. Voilà, alors donc, pour bien comprendre la portée des sept « Je suis » de l'évangile de Jean, je vous les rappelle, on a vu déjà, donc « Je suis le pain de vie », Jean 6, c'est Colin qui nous a traité ça. Nous avons vu la dernière fois, il y a 15 jours, avec David, tiens, il était là David ? L'école du dimanche. Avec David, nous a enseigné sur la lumière, « Je suis la lumière ». Aujourd'hui, on va voir « Je suis la porte, je suis le bon berger ». Et puis, dans 15 jours, on verra donc « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et on terminera par « Je suis la résurrection », pardon. Ça, on le verra le jour de Pâques. Ça tombe le jour de Pâques, comme par hasard. Et on verra, on finira par Jean 15, « Je suis le cep et les sarments ». Ça, ce sont donc les sept « Je suis ». Et pour bien comprendre la portée de ces « Je suis », il faut vraiment les resituer dans le contexte de l'évangile de Jean. Alors vous vous souvenez, lors du message sur la tentation, je vous avais parlé de l'évangile de Jean qui est un évangile un peu à part. Il y a quatre évangiles, on distingue les trois évangiles synoptiques qui ont chacun leur orientation, et on a l'évangile de Jean qui a un but qui est tout à fait à part. Et la dernière fois, Eric Wechter nous a très justement parlé, lorsqu'il a parlé donc de la multiplication des pains, il nous avait dit que les disciples n'avaient pas compris. Même au moment de la deuxième multiplication, les disciples n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains. Ça veut dire qu'en gros, ils n'avaient pas compris qui était Jésus. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, a posé la question dans Matthieu, « Qui dites-vous que je suis ?» Qui les gens disent que je suis ? Oh, un prophète, Élie, machin. Il y a plein de versions. Aujourd'hui, vous demandez qui est Jésus. On va vous dire c'est un prophète, c'est un grand orateur, c'est un charlatan, c'est quelqu'un qui a échoué. Les gens, ils ont plein d'avis sur Jésus. Mais Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis ? Et c'est un peu le problème de chacun de nous. C'est de savoir, comprendre qui est Jésus. Parce que pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que comprendre qui est Jésus, c'est accéder à la connaissance de Dieu. C'est de comprendre réellement qui est Dieu. C'est ce que nous dit l'évangéliste Jean dans le prologue. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Qui est-ce qui a vu Dieu ici? Qui peut dire d'avoir vu Dieu ici? Personne n'a jamais vu Dieu, Jean 1,18. Mais le Fils, Jésus le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc, comprendre qui est Jésus, c'est comprendre qui est Dieu. C'est comprendre la personne que nous servons. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus ici, c'est de comprendre qui est-ce que je sers, c'est la moindre des choses, de le connaître. Et je vous suggère également que comprendre qui est Jésus, comprendre son identité, nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, parce qu'on se définit toujours par rapport à quelqu'un. Comprendre qui est Jésus nous aide à mieux nous comprendre, et mieux nous comprendre, ça aide à être plus en confiance par rapport à notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Donc c'est capital. Et l'évangile de Jean, eh bien, il a été écrit pour ça, pour comprendre qui est Jésus avant tout. Et la série des « Je suis » va nous permettre, graduellement, de comprendre peu à peu qui est Jésus. Alors le but, donc, c'est de présenter Jésus et de révéler Jésus comme le Fils de Dieu. Les autres évangiles vont révéler Jésus comme le roi des Juifs, vont révéler Jésus comme le serviteur, comme le fils de l'homme. Mais Jean révèle Jésus comme le fils de Dieu. Et c'est la déclaration puissante de Jean-Baptiste qui nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On l'a célébré tout à l'heure au moment de la scène. C'est l'agneau de Dieu, Jésus est l'agneau qui enlève le péché, qui nous permet d'être pur, blanc, qui nous permet de nous présenter devant la table de la scène, qui nous permet de venir louer et adorer le Seigneur. Et l'évangile de Jean confirme également ça à la fin de cet évangile. Lorsqu'il est dit en Jean 20-31, ces choses ont été écrites. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de lire pendant les 20 chapitres de Jean, ces choses ont été écrites, Jean 20-31, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'objectif de l'évangile de Jean, de connaître que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si on résume, l'évangile de Jean, c'est un petit peu un échantillon condensé de la révélation de Dieu aux hommes durant l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu n'a eu de cesse de se révéler aux hommes. Lorsque l'homme s'est coupé de Dieu par le péché, Dieu a dû le chasser du jardin d'Éden parce que Dieu était trop pur. L'homme ne pouvait pas rester avec Dieu. Mais de ce moment-là, Jésus avait déjà fait la promesse qu'il y aurait une restauration. Et Dieu n'a eu de cesse de se révéler dans la création, au travers des prophètes. Et la révélation ultime, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est dans les derniers temps, après nous avoir parlé de multiples manières, à de nombreuses reprises par les prophètes, Dieu, dans les temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, par Jésus. Donc l'évangile de Jean, c'est la révélation, la cristallisation de la révélation divine ultime. C'est pour ça que cet évangile de Jean, c'est l'évangile de l'identité de Jésus. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle, et Dieu veut se révéler tel qu'il est, afin que chacun de nous puissions le connaître de mieux en mieux. Ne pas avoir juste une vague idée qui est Jésus. Par exemple, Jésus figure dans un petit bouquin les 100 hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité. C'est pas mal. Mais Jésus est bien plus que ça. Et parfois, on a une image faussée de Jésus. Et si notre image de Jésus est faussée, eh bien notre identité va être faussée. Donc je disais, l'enjeu c'est qui est Jésus ? Et Dieu se révèle en permanence. Les « je suis » de Jean, c'est pas nouveau. Comment est-ce que Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ? Je suis celui qui suis. L'équivalent hébreu, parce que c'est écrit en hébreu, c'est exactement la même chose que l'équivalent grec de Jean. Comment est-ce que Dieu se révèle au peuple lorsqu'il donne les commandements ? Exode 20, les 10 commandements. En fait, j'ai appris récemment que le premier commandement, c'est pas « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Quand on regarde la Bible hébraïque, chez les Juifs, le premier commandement, c'est « je suis l'Éternel ton Dieu ». Et le deuxième commandement, c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne te feras pas de représentation ». Ça va ensemble. Et le troisième, on le retrouve tel qu'on le connaît. Donc le premier commandement de Dieu, c'est « je suis ». Donc Dieu, c'est quelqu'un qui se révèle. Jésus se révélera à la Samaritaine. C'est pas un « je suis » de l'évangile de Jean. Mais il dira, je le suis, moi qui te parle. Elle attendait le Messie, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À l'aveugle né, il va lui dire, tu l'as en face de toi, etc., etc. Donc en fait, l'évangile de Jean, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez l'émission sur RTL, dans les grossesses, il y a une émission qui s'appelle l'invité mystère. Donc ils invitent une personne, ils défendent sa voix, et le but de l'équipe, c'est de trouver qui est la personne. On lui pose plein de questions, on creuse, jusqu'au jour où on trouve la personne. Ben, l'évangile de Jean, c'est un peu l'invité mystère. C'est-à-dire que Jésus, bien sûr, au premier degré, on voit qui c'est. Mais pour découvrir Jésus, il faut être un peu comme ces auditeurs d'RTL. Il faut poser des questions. Il faut essayer de creuser pour savoir qui est Jésus. Vous comprenez ce que je dis ? Oui ? Alors, pour aller plus loin, c'est important de comprendre le contexte de l'époque. De quoi le juif était imprégné? Parce que c'est vrai que quand on parle de temple, quand on parle de pain, par exemple, quand Jésus dit « je suis le pain », ben c'est pas le même contexte à l'époque. Aujourd'hui, je suis le pain, moi je vais à la boulangerie, je m'achète tout le pain que je veux, et j'ai pas de problème pour m'acheter du pain. Donc je comprends pas la portée du pain. La lumière, je rentre chez moi, j'allume le bouton, la lumière vient, il y a des réverbères dans toutes les rues, on n'est jamais dans l'obscurité. Donc la lumière, c'est difficile. Et il y a plein de ces images qui sont difficiles à comprendre pour nous, parce qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Donc il faut comprendre quel était le contexte du juif de l'époque. Eh bien le juif de l'époque, il était imprégné par la symbolique de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous connaissez comme symbolique dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'il y a comme symbole? Qu'est-ce que les juifs, où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'arche, d'accord. Il a été où l'arche? Dans le temple, dans le tabernacle. Donc il y a le temple, le tabernacle, l'arche, le chandelier, la manne, on l'a vu pour Jean 6. Il y avait à un moment donné un rocher qui devait abreuver. Alors c'est pareil, le rocher ça nous dit rien. Nous c'est le rocher, c'est plutôt de l'escalade, c'est plutôt du fun. Hein. Sauf que les Hébreux, quand ils étaient dans le désert et qu'ils mouraient de soif, le rocher ça leur parlait. Nous ça leur parle, ça nous parle pas. Quand on a soif, on ouvre le robinet. Donc ça ne nous parle pas. On comprend intellectuellement, mais ça ne nous parle pas au fond de nos tripes. Donc il faut bien comprendre que pour le juif de l'Ancien Testament, il était baigné dans cette symbolique de l'Ancien Testament. On a cité, on peut citer la vigne aussi, le vin, etc., le chandelier. Eh bien Jésus, dans l'évangile de Jean, il va un à un endosser tous ces symboles. Les juifs connaissaient le temple. À un moment donné, Jésus va venir et va dire « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en trois jours ». Et bien sûr, les disciples ne comprennent pas. Jean nous dit, les disciples ne comprennent pas jusqu'au moment où Jésus ressuscite. Là, ils comprennent. Donc cette symbolique, elle est dure à comprendre. C'est des symboles très forts qui sont connus des Juifs de l'Ancien Testament. Et Jésus, tout au long de l'évangile de Jean, il veut nous montrer la vérité en accomplissant la tradition. Cette tradition que les Juifs répétaient de jour en jour n'avait qu'une valeur symbolique. Et les Juifs, le problème des Juifs de l'époque, c'est qu'ils en avaient fait un dogme. Ce sont les pharisiens qui s'étaient appropriés ces choses. Et Jésus arrive en leur expliquant que ces symboles ne sont que l'ombre des choses à venir, et qu'il est en train de les accomplir un par un. Devant leurs yeux, il accomplit ces symboles. L'eau vive pour la Samaritaine, le pain, la manne, la lumière. Les Hébreux, qu'est-ce qu'ils connaissaient, les Hébreux? Ils savaient que quand ils étaient sortis dans le désert, ils ne voyaient rien la nuit. Il y avait la nuée de l'Éternel qui les éclairait. Plus tard, dans le tabernacle, il y avait la nuée qui s'arrêtait, la lumière qui s'arrêtait la nuit au-dessus du lieu très saint du tabernacle et qui partait, qui était le signal du départ. Ça leur disait quelque chose, la lumière. Ils avaient vécu les plaies d'Égypte. Il y avait la lumière chez eux, mais il n'y avait pas la lumière chez les Égyptiens. Ils avaient vécu ça. Donc quand Jésus leur parle de lumière, c'est extrêmement fort comme symbole. Je suis la lumière du monde, ça veut dire que voilà. Donc Jésus va exprimer son identité, va se révéler au travers de ces symboles puissants. Et c'est ça que nous voyons au travers des différentes symboliques des « je suis ». Alors je vais oser une transcription peut-être plus moderne. Alors excusez-moi d'avance si ça heurte vos oreilles. Mais je me disais que si Jésus, aujourd'hui, venait accomplir de la même façon des symboles qui nous sont connus. Alors j'ai pensé, je me suis dit, quel est un symbole fort d'aujourd'hui? Et je me suis dit, aujourd'hui, par exemple, Facebook, C'est un outil qui crée du lien entre nous. Enfin, entre nous, je dirais pas entre nous, qui crée du lien entre un certain nombre de personnes. Voilà, il crée du lien. Eh bien, si Jésus devait se révéler aujourd'hui, comme il s'est révélé aux Juifs de l'Ancien Testament, et c'est encore une analogie, excusez-moi d'oser faire ça, eh bien, si Jésus devait se révéler à nous, il dirait quelque chose comme « Moi, je suis le lien entre vous. Je suis le Facebook que vous attendiez. » Parce que le Facebook ne vous amène rien, si ce n'est du vide, l'illusion d'avoir plein d'amis, mais vous n'en avez pas, et Jésus arrive et dirait « Je suis le Facebook ». Il accomplirait un symbole. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait au travers des différents symboles de Jean. Alors, bien sûr, on sait que Facebook n'est pas un besoin fondamental. Nous savons aussi que les symboles d'accomplissement sont des besoins fondamentaux. Quand on parle de pain, c'est un besoin fondamental, il fallait manger. Quand on parle de lumière, il fallait s'éclairer, parce que Jésus dit « Celui qui marche dans les ténèbres trébuche hein ». Quand il parle de résurrection, ben oui, il y a des morts, ça crée des drames. Quand il parle de chemin, ben oui, les gens partaient tous azimuts, suivaient des faux prophètes, arrivaient dans des voies sans issue. Donc Jésus répond au travers des « je suis » à des besoins fondamentaux. C'est pour ça que Facebook n'est pas un bon exemple, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc, pour bien comprendre les « je suis », il faut mentalement que nous rentrions dans la symbolique de l'époque pour saisir la profondeur du message que Jésus veut nous donner. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu long sur cette introduction, mais je voulais vous parler de tout ça. Et puis l'évangile de Jean, pour finir, eh bien, c'est un évangile très spécial finalement. Il n'y a pas de généalogie, il y a très peu de miracles, on a 8 au total, ce sont plutôt des signes pour croire qui ont vraiment une portée très spéciale. Il n'y a pas d'épisode où Jésus chasse les démons. La quasi-totalité de l'évangile, toute la moitié de l'évangile se passe la deuxième semaine, la dernière semaine de la vie de Jésus, donc ce n'est pas un résumé de la vie de Jésus, c'est un focus sur pratiquement la dernière semaine. Donc c'est un évangile très spécial et il n'y a pas de parabole non plus. Il n'y a pas de parabole, les paraboles du royaume, le semeur, l'ivraie, la brebis perdue, il n'y a pas de parabole. En fait, si, il y en a une justement et c'est aujourd'hui qu'on va la voir. Pourquoi il n'y a pas de parabole? Ben toujours pareil, ce que je disais au début. Le but, la parabole, c'est quoi? C'est une histoire qui a un sens caché. Et Jean, l'évangéliste, ce qu'il veut faire, c'est révéler réellement qui est Jésus. Donc il ne va pas cacher les choses. Sauf qu'aujourd'hui, on va voir qu'il y a des paraboles. Et il y a une signification toute particulière. On va voir pourquoi aujourd'hui Jésus va utiliser une parabole. Il y a un message très particulier pour des catégories de gens. Et on va voir donc en détail de quoi il s'agit. Alors on va lire Jean chapitre 10. En fait, on va commencer un peu avant pour bien comprendre le contexte. Et on va voir aujourd'hui, on va essayer de répondre à 4 questions. Pourquoi est-ce que Jésus aborde le thème? Qu'il aborde aujourd'hui, on verra qu'il y a une signification chronologique dans l'histoire du texte, dans la progression de la révélation. Il y a vraiment un rôle très particulier. On va voir quelle est la signification de ce thème, comment Jésus se prend, comment il s'y prend pour révéler qui il est, et on finira par des applications pratiques, qu'est-ce que nous, on peut en tirer, chacun de nous, pardon. Alors je vais lire à partir du verset 34, hein, puisque pour faire le lien avec le message de David la dernière fois, David a parlé en Jean 8 de la lumière, en Jean 9, donc il y a une répétition de ce thème, « Je suis la lumière du monde », Jésus va le redire, il va guérir l'aveugle. Les déclarations de Jésus dans « Je suis », c'est toujours lié à quelque chose de très concret, il fait le lien à quelque chose de réel. Je suis le pain, il fait le lien avec l'épisode de la manne. Je suis la lumière, il fait le lien avec la fête des Soukhot et la guérison de l'aveugle-né. Il y a toujours un lien, hein, la résurrection avec la résurrection de Lazare. Il y a toujours un lien. On va lire à partir du verset 34. Donc il s'agit de l'aveugle-né qui termine sa discussion, son argumentation, son apologétique envers les pharisiens. Et les pharisiens lui répondent « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Pardon. Voilà donc ce texte. On va arrêter la lecture ici, ce texte de l'Évangile de Jean. Et je voudrais, avant de rentrer dans le détail du texte, vous donner quelques éléments de contexte finalement. C'est comment ? C'est la flèche droite ?
Oui.
C'est ça ? Où je la pointe ? Où je la pointe là-bas ? La flèche droite, hein ? Vous donner quelques éléments de contexte par rapport à la dernière fois, toujours dans l'optique de la progression de la révélation. Hein. On s'était arrêté avec David sur « Je suis la lumière du monde » et il y a la guérison et la guérison, je vais continuer puis ça s'éclairera, je vous ai fait un petit schéma résumé. Donc entre la lumière du monde, il y a la guérison de l'aveugle au chapitre 9 et entre « Je suis la lumière du monde » et la guérison de l'aveugle-né, donc ça se touche dans Jean, chapitre 8, chapitre 9, mais en fait il y a toute une série d'événements que Luc nous déclare, que Luc nous décrit dans son évangile, et vous savez que Luc est un historien qui est très méthodique, et notamment parmi ces événements, il y a l'envoi des disciples en mission. Et c'est très important parce que Jésus a déclaré qu'il était la lumière du monde, et il équipe ses disciples pour les envoyer en mission, eux qui sont censés être la lumière. Il les envoie comme des lumières. Matthieu 6, Sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Donc Jésus envoie les disciples en mission, les disciples partent, ils chassent des démons, il se passe des choses extraordinaires, ils reviennent enthousiastes, ils disent c'est formidable Jésus ce qu'on a vu, et Jésus leur dit venez à l'écart pour vous reposer. Réjouissez-vous bien sûr de ce que vous avez fait, de ce que vous avez été des lumières, mais le plus important, ne vous réjouissez pas tant de ça, que de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Voilà, cet épisode, avant la guérison de l'aveugle-né, cet épisode de l'inscription du nom des disciples qui sont des lumières sur le livre de vie, ce que Guy nous a lu tout à l'heure, vous avez la vie éternelle. Aujourd'hui, celui qui a accepté Jésus dans sa vie, il a la vie éternelle, c'est du présent, il a son nom inscrit dans le livre de vie. Et nous avons lu là, dans l'évangile de Jean, que personne ne peut ravir les brebis de la main du Père. Donc quand on est inscrit, On ne barre pas un nom d'un registre de vie. Voilà. Donc, entre « Je suis la lumière du monde » et « La guérison de l'aveugle-né » au chapitre 9, il y a l'envoi des disciples. C'est important à comprendre. Et puis, entre la multiplication du pain et la lumière, Eric Wechter nous a dit la dernière fois, c'est bon, ça arrive la diapo ? Entre la multiplication du pain et la lumière du monde, il y a eu cette incompréhension des disciples dont nous a parlé Eric Wechter. Et ça, c'est très important, cette incompréhension des disciples, parce que Jésus comprend que les disciples ne comprennent pas. Donc il va essayer d'accentuer son argumentation, il va essayer de, excusez-moi l'expression, il va mettre le paquet pour essayer de faire comprendre qui il est. Mais c'est pas facile. Et pour nous, c'est la même chose. C'est pas facile de comprendre qui est Jésus. Voilà, il faut une révélation du Saint-Esprit. Il y a eu cette confession de Pierre aussi, avant la déclaration de la lumière du monde, et Eric Wechter nous a bien dit la semaine dernière que la révélation de qui était Jésus par rapport au Père, eh bien, Jésus a dit à Pierre qui fait la confession juste, quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », lorsque Pierre dit ça, Jésus lui dit « Tu es heureux parce que c'est mon Père qui te l'a révélé. » Ça veut dire que la compréhension de Jésus, il n'y a que le Père, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ce qui est Jésus. C'est pour ça qu'il faut prier pour que chacun, et moi je prie pour vous, j'ai prié pour vous, pour que Dieu vous aide, pour que Dieu m'aide à comprendre réellement qui est Jésus. Alors, cette compréhension donc de qui est Jésus, doit passer par ce double contexte. Premièrement, il y a cet aveugle-né. On a vu que cet aveugle-né, eh bien, il avait été guéri. Il était aveugle de naissance et soudain, la lumière est entrée dans ses yeux. Et là, c'est vraiment une illustration parfaite de Jésus qui dit « Je suis la lumière ». C'est-à-dire, c'est pas juste « Je me déclare lumière » et voilà, quoi. Comme plein de gens disent « Moi, je suis le meilleur » ou « Moi, je suis ci » ou « Moi, je suis gourou » ou « Moi, je... » Vous voyez, on peut dire tout ce qu'on veut sur soi, mais quand Jésus dit « Je suis la lumière » et qu'il guérit l'aveugle, il met en pratique réellement ce qu'il dit. Donc ça, c'est un premier point de contexte. Et puis, le deuxième point de contexte, c'est le rejet de l'aveugle-né. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'aveugle-né comprend qu'il a été guéri, il y a toute une argumentation, et on voit en parallèle un endurcissement des pharisiens. Et la lumière, ben c'est ce que nous a été dit la dernière fois, la lumière, soit elle éclaire l'aveugle qui vient à Jésus, soit elle aveugle et elle endurcit les pharisiens. Et on voit que dans ce contexte, il y a une cristallisation. D'un côté, l'aveugle-né qui fait un chemin vers la compréhension de qui est Jésus et qui confesse Jésus comme son sauveur, et de l'autre côté, les pharisiens qui s'endurcissent et qui commencent à ruminer, qui commencent à échafauder des plans. Et dans l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui cristallise le plus sur l'opposition avec les pharisiens. Eh bien, pour les pharisiens, c'est trop. Donc, ils sont aveuglés, ils sont là. On voit d'ailleurs à la fin du chapitre 9, quelques pharisiens, verset 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui après avoir entendu ses paroles. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de pharisiens. Il y a ceux qui sont partis déjà, qui sont en train d'échafauder des plans pour tuer Jésus. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont indécis, qui se posent des questions. C'est quand même pas possible, on ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle si on ne vient pas de Dieu. Donc, il y a quelques pharisiens ici qui écoutent. Voilà, ça c'est le contexte autour de Jésus. Et puis, il y a aussi ce peuple qui est égaré, qui est mal conduit, qui a besoin d'un berger. Voilà la lumière qui revient. Alors, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, vous avez la chronologie ici des événements, le pain de vie, la lumière, la guérison de l'aveugle-né et le bon berger. Alors, ce que je vous ai dit ici, l'incompréhension des disciples, on va vite, l'envoi des disciples en mission, et après la guérison de l'aveugle-né, il y a ces trois événements qu'il faut bien comprendre pour comprendre la teneur du chapitre 10. Le rejet de l'aveugle-né, l'endurcissement des pharisiens, et un peuple qui est finalement égaré. On a vu même la dernière fois dans l'évangile de Marc, dans la bouche d'Éric, que Jésus a été ému de compassion parce qu'il voyait que ce peuple était languissant et égaré. Donc, c'est dans ce contexte que Jésus va donner l'enseignement de Jean 10 face à ces trois catégories de population. un aveugle rejeté qui vient l'accepter, un groupe de pharisiens qui sont endurcis et aveuglés, et un peuple globalement qui est aveuglé. Et à côté de ça, eh bien, vous avez des disciples. Des disciples qui sont en formation avec Jésus. Donc quatre types de population. Et donc là, Jésus donne cet enseignement sur le bon berger. Alors, juste un petit mot pour expliquer à l'époque, c'était quoi une bergerie? Il faut expliquer ça. Qu'est-ce qu'était une bergerie? Parce qu'il y a des images que Jésus utilise. Là, on va encore être... C'est dommage parce que j'ai une belle photo. Mais on a une image que Jésus utilise ici. Donc les bergeries de l'époque, ce n'est pas du tout ce qu'on voit maintenant. Moi, pendant plusieurs années, j'ai exercé le métier de vétérinaire, j'ai soigné des brebis. C'était des baraquements en bois avec des portes qu'on fermait à clé. Donc ça n'a rien à voir, vous voyez, dans le contexte. Les bergeries à l'époque, c'était soit des terrains entourés de murets. Il faut imaginer comme si vous êtes allé en Irlande déjà ou dans certains coins de France, vous avez des murets en pierre. Et puis, c'était souvent des grottes aussi. Je vais voir si ça marche. Ça y est, voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez par exemple une bergerie. Ça, c'est une image qui a été prise de nos jours là, en Israël. Et vous avez l'entrée ici de la bergerie. En fait, c'est une grotte. Et vous voyez qu'il y a une porte ici. Et la porte, il n'y a pas de gond ici. C'est juste un passage. Donc il ne faut pas imaginer, quand Jésus parle de bergerie, il ne faut pas imaginer la bergerie qu'on voit, si tant est qu'on se promène dans la campagne, etc., une petite baraque en bois avec une porte et une clé. Ce n'est pas du tout ça. D'accord? Donc très souvent, le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il n'y avait pas de porte, eh bien, il dormait à travers l'entrée. Il se mettait en travers du passage, comme ça les brebis ne sortaient pas, et il fallait lui passer sur le corps si on avait envie d'aller prendre des brebis. D'accord? Donc pour comprendre cette parabole, il faut comprendre cette historique. Et puis, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'image du berger et de la bergerie était très familière en Israël. On était dans une société rurale, très agraire. Aujourd'hui, ça ne nous parle pas. Bon nombre d'entre nous ne voient jamais de moutons, sauf quand on va se balader dans le sud du Massif central, il y a les brebis de la Cône, celles qui donnent le Roquefort, vous savez. Mais sinon, on ne voit plus de moutons aujourd'hui. Donc on ne peut pas s'imaginer. Vous voyez ? Alors que les Juifs de l'époque, c'est une image qu'ils connaissaient bien. C'est une métaphore qui est très présente dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre des Nombres, pour ceux qui prennent des notes, en Nombre 27, il y a un passage qui nous dit que Dieu dit à Moïse de choisir Josué pour être le berger du peuple qui va rentrer dans le pays de Canaan. Donc, cette notion de berger qui va amener, conduire le peuple dans un pays d'abondance, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc, le juif de l'Ancien Testament, qui connaissait sa parole, qui connaissait ses textes, le but, c'était qu'ils fassent les liens. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui nous est dit à l'issue de la première des paraboles? Parce qu'il y a trois paraboles, on verra tout à l'heure. À l'issue de la première des paraboles, il est dit qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce que probablement, ils ne connaissaient pas bien la portée des choses. Peut-être que ces pharisiens, parce qu'il s'agit des pharisiens, ces pharisiens étaient tellement dans leur religiosité, dans leurs règles, 650 règles, etc., observées, ils étaient tellement dans leurs règles qu'ils ne comprenaient pas la portée de ce que Jésus était en train de leur dire. Et en Nombre 27, toujours, il est dit à Moïse, Moïse dit à Josué de choisir, Dieu dit à Moïse de choisir Josué, afin, je lis le texte, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc cette notion-là est très connue de l'Ancien Testament. Ésaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Etc., etc., etc. Et puis, j'ai envie de vous demander, quel était le métier d'origine du roi David? Il était berger. Donc, et Jésus est appelé, oui, le bon berger, le fils de David. Donc le lien, il est très facile à faire pour les Juifs de l'Ancien Testament. Même les rois, les conducteurs du peuple étaient appelés le berger des troupeaux. En Zacharie 11, 4, il est dit au responsable, au prince de ce peuple, « Sois le berger de mon troupeau ». Donc le mot berger, le mot conducteur, c'était des mots qui étaient très très familiers pour les juifs de l'époque, parce qu'on était dans une société agraire. Et si on ne comprend pas ces choses, on ne comprend pas pourquoi Jésus utilise ces images, et on explique mieux pourquoi les pharisiens n'arrivent pas à comprendre. Parce que les pharisiens sont des religieux. Ils sont dans leur tradition, ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans le pouvoir, d'en conserver le pouvoir, parce qu'ils comprennent bien que Jésus est le Fils de Dieu. Ils sont intelligents, ils savent bien que Jésus fait des miracles comme personne n'a fait. Sauf qu'à un moment donné, ils se disent, si je choisis Jésus, je laisse mon pouvoir. Et ça, ils n'en ont pas envie, parce qu'ils tiennent la maison d'Israël. Et ils sont, par excellence, ce que Ézéchiel au chapitre 34, on n'a pas le temps de le lire, mais il faudrait le lire, je vous encourage à le lire. En Ézéchiel 34, il est parlé des mauvais bergers qui ne pensent pas à la brebis malade et boiteuse et qui engraissent les brebis, etc., etc., etc. On verra l'application pour nous tout à l'heure. Je voudrais revenir à la parabole. Il y a trois paraboles, en fait, dans trois paraboles en une. Hein. La première des paraboles, je vois que l'heure file, je vais aller assez vite. La première des paraboles, c'est la parabole du berger et des brebis. C'est de verset 1 à 6, c'est le berger qui est le seul qui entre par la porte de la bergerie. D'accord ? Le berger, le vrai berger, c'est le seul qui rentre par la porte de la bergerie. Donc l'enjeu est là. L'enjeu, c'est de connaître qui est le vrai Messie qui rentre dans la bergerie d'Israël. C'est ça l'enjeu. Qui est le vrai Messie ? Parce qu'il y a plein de faux Messies. Il y a plein de gens qui escaladent par le côté. Vous avez vu la petite image ? Il y a plein de gens qui ont voulu prendre la place des Messies. Et Dieu avait mandaté des responsables pour conduire ce peuple. Mais ces responsables ont failli. Ils ont mal conduit leur peuple. Donc seul Jésus, lui, a parfaitement accompli les Écritures. C'est le seul qui est entré par la porte de la bergerie et c'est le seul qui a parfaitement accompli les Écritures en annonçant finalement qu'il était le Messie et qui est entré par cette porte des Écritures. Et ça nous rappelle ça, que Jésus, c'est Dieu qui trace le chemin jusqu'à lui. Là encore, il y a une symbolique dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait la symbolique du tabernacle. Vous savez que dans le tabernacle, eh bien, il n'y avait qu'une seule porte. Il y avait une porte pour rentrer dans le tabernacle. Je vous ai mis à gauche le tabernacle et à droite le temple. C'est à peu près pareil. Il y en a un qui était portatif. C'est le modèle couteau suisse. Et ça, c'est le modèle fixe, on va dire. Mais dans les deux, il n'y avait qu'une seule porte pour rentrer dans le lieu très saint. Et quand Jésus dit qu'il a accompli les Écritures, le seul parfaitement, c'est que c'est lui qui est légitime pour accomplir ces Écritures. Là encore, c'était une image qui était connu de ses auditeurs. Et à côté de ça, eh bien, il y a des faux bergers, ceux qui n'ont pas accompli les Écritures, que Jésus appelle des voleurs et des brigands, des faux prophètes contre lesquels la parole de Dieu met en garde. Là, je vous passe les textes, il y en a énormément. Donc, Jésus est le seul qui est rentré par la porte de la bergerie. Et je vous rappelle ce verset d'Hébreux 9, 11, qui nous dit, hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été fait par la main de l'homme. Donc symboliquement, Jésus est entré par cette porte du tabernacle. Il s'est offert sur l'autel comme un sacrifice de bonne odeur. Et c'est ce que nous rappelle cette symbolique de cette première parabole, la parabole du berger qui entre par la porte de la bergerie. Et malheureusement, là Jésus s'adresse aux pharisiens et les pharisiens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Donc Jésus va passer à une autre parabole. Vous noterez que ces trois paraboles, Jésus ne les explique pas. C'est pour ça que le texte est difficile. Souvent, dans les paraboles du royaume, Jésus explique les paraboles. Donc nous, on peut comprendre la parabole du semeur, en fait, c'est le fils de l'homme qui sème, etc. Mais quand on n'a pas l'explication, c'est difficile à comprendre. Il faut creuser ses méninges. Et c'est ce que les pharisiens ne font pas. Parce que les pharisiens, par définition, ont décidé de rejeter Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils menaçaient leur pouvoir. Alors, deuxième parabole, il va passer à la parabole de la porte des brebis. Est-ce que vous pouvez l'avancer pour moi ? La parabole des portes des brebis. Donc, la porte des brebis, eh bien, c'est le symbole de quoi ? C'est le symbole de la seule porte qui peut conduire, d'une part, au salut. Le salut, c'est quoi ? Eh bien, c'est être sauvé de la perdition éternelle qui est destinée à tous les hommes. Tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont perdus éternellement. Donc la seule porte qui conduit au salut, eh bien, c'est la porte des brebis. Et Jésus dit, je suis la porte. Une fois qu'on a franchi la porte, il faut emprunter un chemin. Et on verra plus tard dans Jean 13, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la seule porte qui conduit au salut, qui conduit à la vie. La vie, c'est la vie éternelle dont nous a parlé Guy. Nous avons la vie éternelle quand nous avons franchi la porte du salut. Et là, n'oubliez pas que l'auditeur, l'un des auditeurs de Jésus, c'est l'aveugle-né. Donc l'aveugle-né, quand il écoute ça, il comprend. Il se dit, mais oui, moi j'ai franchi la porte. Jésus est la porte. Quand Jésus dit, je suis la porte, l'aveugle-né, il est aux anges, il dit, ça y est, j'ai trouvé la porte. J'ai la vie éternelle. Et cette vie, nous a rappelé Eric Wechter la semaine dernière, c'est une vie abondante. Avec Dieu, c'est une vie d'abondance. Quand Jésus multiplie les pains, il y a plein de rabes. Donc Jésus est la seule porte qui conduit au pâturage abondant. Et toute autre porte qui va s'ouvrir devant les brebis est une porte trompeuse. Alors n'oublions pas qu'il y a l'aveugle-né qui vient de se convertir, mais il y a aussi toutes les brebis potentielles qui écoutent la parole de Jésus, la foule qui est à se demander est-ce qu'il est le Messie ou est-ce qu'il n'est pas le Messie. Et ça s'adresse à la foule aussi. Là, il y a potentiellement un champ de mission énorme. Et quand Jésus dit « Je suis la porte », il s'adresse à ces gens-là en disant « C'est par moi que vous pouvez rentrer ». D'ailleurs, regardez l'aveugle-né. Il vient de rentrer, suivez-le. Et là, il y a encore répétition des voleurs et des brigands qui vont usurper la place. Alors pendant longtemps, le voleur, brigand, celui qui égorge, moi je pensais à Satan. Mais en fait, en relisant ces textes, c'est pas Satan. Je pense que c'est pas Satan. Je vous livre mon interprétation. Je pense qu'il est en train de parler aux pharisiens, avant tout. Parce qu'il y a une opposition terrible entre les deux. Et il fait ici, indirectement, au moyen d'une parabole, un réquisitoire contre les pharisiens, qui représentent la religiosité, qui représentent le légalisme, qui représentent le faire, qui représentent la religion. Et quand je vous dis ça, pour ceux qui ont entendu mon témoignage l'autre jour avec les jeunes, moi j'ai vécu 26 ans dans la religion. Il est parlé tout à l'heure, Jean Lionel nous a parlé de Gabriel Jeffé, qui est en Grèce, c'est ça? En Grèce, religion orthodoxe très forte, moi je suis né dans la religion orthodoxe, c'est une religion imprégnée de rites, de religiosité, de légalisme, de pharisianisme, c'est terrible. Je le dis au micro, c'est enregistré, ça me valeur des ennuis, mais je le dis quand même parce que c'est la réalité. Non, mais c'est bien, tu peux laisser Guy. Je pense que c'est bien que les gens le sachent. Et donc, Jésus s'adresse au légalisme, parce que le problème du temps de Jésus, comme le problème aujourd'hui, c'est pas les gens qui sont dans la débauche et la licence. Parce qu'on a vu que des prostituées, des collecteurs d'impôts, des voleurs sont venus à Jésus. Le problème du temps de Jésus, c'est les pharisiens, c'est le légalisme. Le plus grand combat, peut-être, de Jésus, ça a été contre le légalisme. Et c'est pour ça qu'il répète deux fois, dans la première des paraboles, la parabole du berger qui rentre, la deuxième fois, dans la parabole de la porte, il répète les voleurs et les brigands. Et il va même plus loin, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Et pourquoi je dis ça fait référence aux pharisiens? Parce que le verbe qui est utilisé pour tuer, le verbe grec, c'est un verbe qui fait référence au système sacrificiel. D'accord? Les pharisiens, le système sacrificiel religieux, c'était tuer des moutons, etc., pour offrir des sacrifices. C'est le verbe tuo qu'on retrouve dans l'église de Thyatire. L'église de Thyatire dans l'Apocalypse, c'est une église engoncée dans la tradition. Donc voilà pourquoi je pense qu'il s'adresse aux pharisiens. Et le message est très très clair. Toute religion n'est pas bonne pour vous qu'on y croit. Plein de gens vous disent ça, des philosophes. Oh, chacun à croire, chacun peut croire ce qu'il veut, de toute façon ça l'amènera au bon endroit. Eh ben non, toute religion n'est pas bonne à croire. Parce qu'il y a des religions qui vous enferment dans du légalisme terrible. Et alors on pense, je ne citerai pas de nom, mais je vous invite à vous poser la question dans quelle mesure on n'est pas légaliste d'une certaine manière. Puisque quand on regarde l'histoire de l'Église, au départ il y avait une seule Église. Puis après il y a des tas d'Églises qui se sont développées. Et toutes les Églises un petit peu mûres tombent dans un espèce de légalisme, une hiérarchie, une structure, une cléricalisation qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les brebis, au lieu d'être sous la houlette du bon berger, elles sont sous la houlette d'un système qui les tient captifs et prisonnières. Et ce n'est pas la liberté. Voilà, donc c'est la seule porte qui qui conduit au salut, et je crois que j'ai ce verset d'Actes 4:12 que vous connaissez, pour ceux qui apprennent les versets bibliques, que nous dit Actes 4:12.
Il n'y a de salut en aucun autre.
Françoise. Bravo Françoise, c'est excellent, excellent. Il n'y a de salut en aucun autre. La seule porte des brebis, c'est Jésus. Et je vous lis un commentaire de notre frère Bob Souza qui nous dit « Jésus instaure le guichet unique comme point de rencontre entre Dieu et les hommes. » Jésus instaure le guichet unique, ça vous parle le guichet ? Le guichet unique comme point de rencontre entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que Jean 1 nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le verbe c'est tabernacler, le tabernacle, la porte unique. On retrouve toujours les mêmes thèmes. Donc ça veut dire que si la parole a habité, eh bien il n'y a plus besoin de pratiques religieuses pour être réconcilié avec Dieu. Nous sommes pleinement réconciliés par Jésus-Christ. C'est pas nos œuvres, c'est pas nos traditions, c'est pas notre légalisme. C'est pas parce que vous allez vous efforcer de venir tous les dimanches au culte que vous allez être meilleur devant Dieu. Je dis pas qu'il faut être laxiste là-dessus. On se réunit pour se faire plaisir, pour se faire du bien, mais c'est pas la venue de tous les dimanches matins au culte qui va faire de vous des bons chrétiens. C'est ça le légalisme. C'est ça que Jésus combat ici. Et enfin, la troisième parabole. Pardon. Parabole du bon berger. Et là, il va s'adresser peut-être à un autre type de public, on va le voir. Il va s'adresser, il est le bon berger, il va s'adresser peut-être aux futurs bergers. Des bergers, il y en a eu tout le temps. Je me souviens quand je suis arrivé dans l'église de la rue Sodra, il y avait quelques bergers, il y avait Pierrot, il y avait Rémi, il y avait déjà François, il y avait à l'époque François, Rémi, Georges, Marcel, voilà. Donc, et les bergers se renouvellent. Et donc ça, qu'est-ce que nous dit le bon berger ? Eh bien, le bon berger, il fait plusieurs choses, trahi par la technique. Le bon berger, premièrement, il donne sa vie pour ses brebis, d'accord ? Ensuite, il connaît ses brebis, et il est connu d'elles, il est protecteur, et il est berger d'un seul troupeau. Donc je ne vais pas commenter tout le détail de ce texte, parce que ça serait trop long, mais c'est facile à comprendre. Jésus va réunir en un seul troupeau les brebis. Merci beaucoup, nos amis techniciens. Tu peux avancer ? Non ? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, le bon berger, il conduit, il est protecteur. Et là, encore une fois, on a... Ouais, le seul, voilà, vous avez ça, protecteur, berger d'un seul troupeau, qui donne la liberté. Et là, encore une fois, il est cité, à chaque fois, Jésus définit son rôle par opposition. La première fois, c'était les voleurs et les brigands. Il y avait ensuite, la deuxième fois, voleurs et brigands, et également le voleur qui vient pour égorger et détruire. Et puis là, on nous a parlé de mercenaires. Alors peut-être, quelle est la différence entre un voleur et un brigand ? Ben, le voleur et le brigand, c'est vraiment celui qui vient voler et détruire. Comment est-ce que le pharisien vient voler et détruire ? Ben, s'il détourne quelqu'un de la vérité en Jésus, s'il lui donne des fausses pistes, ben, il va le tuer, quoi. Parce qu'il n'aura pas la vie éternelle, il ne peut pas aller au Père. C'est ce que Pierre reprochait dans ses prédications. Il disait, mais vous avez fermé le royaume de Dieu à la population, vous n'y êtes pas entré vous-même, mais vous avez fermé le royaume de Dieu. Donc voilà, le voleur et le brigand, il y a cette notion de méchanceté. Alors que le mercenaire, on y reviendra tout à l'heure, le mercenaire, c'est plutôt celui qui, c'est celui qui sert par intérêt. Vous voyez ? Et ça, ça intervient, ça rejoint nos motivations. Quelle motivation j'ai à servir ? Voilà, donc le bon berger, ben, c'est le seul sauveur, c'est le seul en qui on peut avoir confiance, c'est le seul que l'on peut suivre. Alors finalement, si on voulait un petit peu résumer, quels sont les auditeurs, quels sont les destinataires de cette parabole ? Eh bien, en premier lieu, je vais avancer, voilà, il y a trois auditeurs. En premier lieu, je vais citer les pharisiens. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les pharisiens, ce sont les mauvais bergers. Ces mauvais bergers ne sont pas condamnés, ils doivent juste se repentir. Ils doivent juste comprendre qu'à un moment donné, ils ont fait erreur, qu'ils sont aveuglés. Et justement, ce petit groupe de pharisiens qui est avec Jésus, qui se pose la question, qui dit « Alors, c'est vrai, nous on est aveugles ? Tu penses qu'on est aveugles ?» Jésus leur dit « Oui, vous êtes aveugles. » Voilà, donc ils ont besoin de se repentir. Il y a ces pharisiens, on l'a déjà vu. Hein. Ensuite, le deuxième groupe, eh bien, c'est les brebis, là-bas, en haut à gauche, dont le représentant est l'aveugle-né. Hein. Et le psaume 100 nous dit « Nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau dont il est le berger. » Donc les brebis, eh bien, qui écoutent ce message. Et peut-être ce matin, vous êtes une des brebis qui écoutait le message. Et vous vous dites, je ne connais pas Jésus. J'ai besoin de savoir qui est Jésus. Je viens dans cette assemblée, mais je ne sais pas exactement qui est Jésus. Ben justement, vous avez l'occasion de comprendre qui est Jésus, que Jésus est un berger qui prend soin de ses brebis, qui veut donner l'abondance, qui veut donner la vie éternelle. Alors vous pouvez lui confier votre vie. Ce matin, vous pouvez venir à lui en vous disant, tu es le bon berger, je ne comprends pas tout, mais j'ai envie de te donner ma vie. Voilà, vous pouvez être une brebis qui a besoin du bon berger. Et vous avez besoin d'être conduit dans la vérité. En Jean 16, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il nous dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus nous conduit dans la vérité, et quand Jésus est remonté au ciel, il a envoyé son Saint-Esprit, et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous permet de comprendre qui est Jésus, qui éclaire nos yeux pour comprendre dans la Bible qui est vraiment le Fils de Dieu. Donc les brebis, quel est le but des brebis? Eh bien, c'est d'écouter la voix du berger. Et comment ne pas citer les chrétiens de Béret, qui, chaque jour, quand on leur disait quelque chose, ils vérifiaient les Écritures. Ça, c'est la brebis du Seigneur. C'est comme ça qu'on peut discerner entre la voix des étrangers et la voix des brebis. C'est lorsqu'on se réfère aux Écritures. Et puis, vous avez une troisième population, c'est les disciples. Les disciples, n'oublions pas que ce sont les futurs responsables. Ce sont les futurs bergers qui vont conduire le troupeau. Parce que Jésus, il a dit, je vais partir, c'est vous qui allez continuer l'œuvre. Et parce que les disciples ont été des bons bergers, qu'ils ont donné leur vie, et ils l'ont donné au sens physique, puisque la plupart des disciples ont fini martyrs, eh bien, comme ils ont donné leur vie, ils ont compris ce jour-là la parabole du bon berger. Il a compris ce que Jésus devait leur dire. Et le but du disciple, c'est de servir, c'est de conduire la brebis pour qu'elle se rapproche du vrai berger. Ce n'est pas s'accaparer la brebis. Les pharisiens s'étaient accaparés les brebis. Ils les exploitaient, ils leur soutiraient de l'argent, ils abusaient d'eux. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, les fils d'Élie qui piochaient dans la marmite. Hein ? Donc le but, c'est de servir, c'est de conduire la brebis. Et si on voulait résumer ça sur un petit schéma, oui, ça c'est le schéma de la porte. On est encouragé, les brebis sont encouragés à rentrer par la porte étroite. Vous savez, il y a deux types de portes, nous dit Jésus en Matthieu 7. Il y a la porte large par laquelle tout le monde rentre et la porte étroite. Ben, la porte de Jésus, c'est une porte étroite. Donc il faut rentrer par la porte étroite. Voilà, je voulais venir à ce petit schéma, vous voyez. Très souvent dans les systèmes un peu cléricaux, les systèmes structurés, les églises officielles, développées, matures, on a des bergers qui sont un peu au-dessus, qui ont des titres. Vous voyez, c'est les pharisiens, ils aimaient se promener avec des robes longues, ils aimaient être salués dans les places publiques. On retrouve un petit peu ou prou dans des systèmes, vous voyez. Et puis vous avez les pauvres brebis qui sont là et qui sont du temps de Jésus, languissante et abattue, parce que les bergers, ils étaient occupés à savoir, à faire des trucs, à recevoir des honneurs officiels, etc. Et moi, je suis reconnaissant qu'on soit dans une assemblée de frères, une église de frères. Et la base des églises de frères, c'est pas ce système-là. C'est pas ce système-là, et c'est un autre système qui serait plutôt, vous voyez, de cette nature-là. C'est-à-dire, celui qui est berger, il est en bas. Il est là pour servir. On a un collège d'anciens, et puis ce collège d'anciens, avec humilité, il essaye de servir tous les jours comme il peut. Voilà. Et il est au service des brebis. Ils sont petits, les bergers. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est de pointer vers le souverain berger. Parce qu'il n'y en a qu'un vrai berger. Il n'y en a qu'un bon berger, c'est Jésus. Et donc, les bergers que nous avons aujourd'hui, ils sont chargés de paître le troupeau et de pointer vers le souverain pasteur. On lira tout à l'heure cette magnifique conclusion de la première épître de Pierre, hein, où il est justement où il est adressé au berger, paissez le troupeau de Dieu. Alors, il va falloir quand même que je puisse conclure, et les brebis doivent écouter la voix du berger. En conclusion, ce que je voulais vous dire, je vais être rapide, Jésus, il est révélé dans l'évangile de Jean comme un diamant. C'est vraiment, il y a un chant qui dit « Jésus, tu es plus précieux que l'or, tu es plus précieux que le diamant ». Jésus est un diamant à multiples facettes. Il est impossible de saisir la magnificence de Jésus. Il n'y a que des symboles qui peuvent, à un moment donné, en regardant de tous les côtés, un petit peu comme un dessin industriel, vous savez, quand on dessine en 3D, il faut avoir plein de vues pour arriver à saisir qui il est. Mais en gros, pour nous saisir, pour nous aider à saisir Jésus, eh bien, on peut le voir sous plusieurs angles. Premièrement, Jésus, c'est le berger qui a parfaitement accompli les Écritures, parce qu'il a franchi la porte de la bergerie, et c'est lui qui va rassembler un seul troupeau. Jésus a voulu créer une seule Église, un seul troupeau. Aujourd'hui, il y a des multiples dénominations, mais l'intention de Jésus, c'était une seule Église et un seul troupeau. Donc, c'est le berger qui a parfaitement accompli les Écritures. Ensuite, Jésus, c'est la porte qui permet à tout aveugle, tous ceux qui ont besoin de lui, de franchir cette porte et de reconnaître qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et Jésus, aujourd'hui, il accueille tous ceux qui viennent à lui. Et enfin, Jésus, c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis et qui est un modèle à suivre pour les responsables de l'Église. Parce que finalement, en application pour nous, il y a trois paraboles, trois identifications de Jésus. Et pour nous, eh bien, l'application, c'est quoi? Chacun d'entre nous, on est dans une des catégories. On est peut-être une brebis aujourd'hui qui est perdue, qui ne connaît pas Jésus. Eh bien, aujourd'hui, la démarche, c'est d'accepter Jésus. Et vous pouvez venir nous voir à la fin du culte, peut-être pour en discuter, si vous souhaitez aller plus loin pour accepter Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es une brebis qui connaît le Seigneur et qui est égarée, qui a besoin de revenir au bon berger. Eh bien, il y a des bergers dans l'assemblée qui vont t'aider à revenir, parce que le but, c'est de s'entraider mutuellement. On verra ça dans la parabole du cep et des sarments dans 2 mois. On peut revenir à Jésus. Et puis, il y a la porte. La porte, c'est le test d'entrée dans le royaume de Dieu. Comment je rentre dans le royaume de Dieu? Le bon berger, c'est le test un petit peu de l'équipe. C'est comment fonctionne une équipe berger et brebis ensemble. Les brebis, elles sont responsables d'écouter la voix, et les bergers sont responsables de conduire le troupeau et de pointer vers le souverain pasteur. Et je voudrais qu'on termine en lisant ce texte de 1 Pierre chapitre 5, qui finalement va résumer un peu le propos d'aujourd'hui. 1 Pierre 5. Qui s'adresse aux bergers, aux vrais bergers, tels que Jésus voudrait qu'ils soient. J'exhorte donc, verset 1, j'exhorte donc les anciens, on peut dire les bergers, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, la notion de service, de pyramide inversée. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Le gain sordide, c'est le mercenaire, c'est celui qui abandonne le troupeau. Là, il nous demande de ne pas faire ça dans un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, c'est pas en haut de la pyramide, c'est en bas de la pyramide, mais en devenant les modèles du troupeau. Comment on peut devenir un modèle du troupeau? En regardant au vrai modèle qui vient d'être présenté. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous voyez ce mot-là, souverain pasteur, c'est le seul mot de la Bible, c'est un seul mot du Nouveau Testament où le mot pasteur est utilisé au singulier. Tout le reste, ce sont des pasteurs en tant que ministère. Le pasteur est un don spirituel de conduite, de berger. Le seul mot pasteur au singulier, il est là. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Et je reboucle la boucle par rapport à ce que nous a dit Guy. C'est l'espérance qu'un jour, lorsqu'on le verra, enfin lorsqu'il paraîtra, c'est la parousie, hein, le mot parousie, lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Voilà, tout un programme, mes chers brebis, mes chers bergers, et que Dieu vous bénisse pour le restant de cette journée et de cette semaine.